Rencontre littéraire. Ce qu'on appelle le tiers-monde, le monde en voie de développement, ne cesse de m'intéresser, dit Pavla Jazayriova. Écrivaine et journaliste née en France, elle vit aujourd'hui en République tchèque et n'arrête pas de voyager. Elle s'est rendue dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, du Proche et Moyen-Orient et d'Amérique latine et a publié une importante série de livres consacrés aux pays en voie de développement. Dans son dernier ouvrage intitulé « Příběhy, récits », elle amène le lecteur en Colombie, en Inde et dans deux capitales européennes. Elle invite à se poser des questions sur le monde transformé, impitoyable et globalisé dans lequel nous vivons. Pavla Jazayriova a parlé de son livre aussi au micro de Radio Prague. Votre livre nous amène dans trois continents, en Colombie, en Inde, et puis à Rome et à Paris. Pourquoi ces destinations? Qu'est-ce que ces pays et ces villes représentent pour vous?
Je ne sais même pas comment le dire en français, comment le titre du livre, parce qu'on ne peut pas dire que ce sont des histoires, mais ce sont des aventures ou ce sont des récits. Ce sont des récits différents qui sont venus à moi avec ma vie. En fait, de compte, je crois que je parle toujours un peu dans la même manière, des mêmes choses. Comme je voyage beaucoup, j'ai 72 ans, enfin, ça fait 50 ans que je voyage presque. J'ai récolté différentes pensées, différents souvenirs. La Colombie, c'est le tiers-monde, vous savez, et puis l'Inde aussi, les grandes villes, la globalisation. Et la globalisation qui unifie, qui efface tout, on ne peut pas dire si la globalisation c'est bien, c'est pas bien. Moi, généralement, je trouve que la globalisation détruit l'identité des différents pays, mais elle leur apporte beaucoup de choses. Peut-être que c'est un livre sur la globalisation.
Alors, ce ne sont pas de simples récits de voyage, c'est plutôt des pensées et des choses que vous avez vécues dans ces endroits-là.
Non, pas vraiment, ce sont des histoires. Par exemple, je raconte l'histoire de la civilisation précolombienne, enfin, d'une manière très brève, mais je m'intéresse aux civilisations précolombiennes, je m'intéresse au mélange qui est né de l'arrivée d'abord des occupants, donc des combattants, des guerriers espagnols, avides de l'or, et puis l'arrivée des esclaves noirs, de différents peuples qui cherchaient en Amérique latine un avenir différent. Et les mélanges se trouvent aussi en Inde. Ce sont de nouveau les histoires des conquérants, des civilisations qui s'interpénètrent, qui créent autre chose.
Dans les chapitres consacrés à la Colombie, vous évoquez entre autres trois personnages très différents, Simon Bolivar, Pablo Escobar et Gabriel Garcia Marquez. Pourquoi ces trois hommes très différents? Quelles empreintes ont-ils laissé dans la vie de la Colombie?
Bien, chacun a laissé une empreinte très différente. En plus, il y en a d'autres aussi. Et ce sont, je trouve, des histoires fortes. Alors, Pablo Escobar, un criminel qui a fait fortune, et comme on sait, l'argent est très important. La personne qui n'a pas d'argent ne signifie presque rien. Simon Bolivar, l'idéaliste, n'est-ce pas? Et Gabriel Garcia Marquez, un homme qui s'est raconté.
Prix Nobel de la littérature.
Voilà.
Et vous amenez aussi le lecteur en Inde, pays que vous avez visité à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ce pays vous a donné et qu'est-ce qu'il peut donner à nous, habitants d'Europe centrale?
Je crois que l'Inde est exceptionnelle pour une culture immense, méconnue, et que l'on ne peut pas détruire facilement. Car l'identité des hindous, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient jainistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient surtout hindouistes, c'est une identité extrêmement forte. Et je crois qu'une vie ne suffit pas pour comprendre et connaître l'Inde.
Vous évoquez Calcutta et vous ne cachez pas d'être fasciné par cette ville. Pourquoi, en quoi diffère-t-elle des autres mégapoles?
Il y a trois mégapoles en Inde. C'est Mumbai, c'est Delhi, c'est Calcutta. Ce sont trois mégapoles qui me fascinent de la même manière, chacune pour d'autres raisons. Parce que, par exemple, Delhi, c'est une ville extraordinaire, historique, extrêmement vieille. La civilisation qui s'est créée dans ces lieux où se trouve Delhi d'aujourd'hui est une civilisation millénaire. Et puis ensuite, il y a Delhi, la ville musulmane, le berceau d'une certaine manière de la civilisation musulmane en Inde. Maintenant, c'est la capitale. Et c'est une ville multiple où on peut tout trouver, on trouve tout. Mais dans les autres villes aussi, Mumbai, qui en fait s'appelait Bombay, cette ville qui aussi a facettes multiples, fascinantes, magnifiques, merveilleuses, avec une baie extraordinaire. Et puis Calcutta, qui a été créée par les Anglais. En fait de compte, c'était un petit port commercial, un comptoir. Et puis elle s'est développée grâce aux Anglais. Et c'est là qu'est née une intelligentsia vraiment hindoue, une intelligentsia hindouiste qui est revenue aux racines même de la civilisation. Et c'est là qu'a commencé la renaissance du Bengal, on dit, la renaissance bengalaise, des personnages extraordinaires comme Tagore, des penseurs, des réformateurs de l'hindouisme, car l'hindouisme est une religion qui est déjà réformée, c'est une vraie philosophie. C'est une ville, une mégapole de civilisation tellement multiple. Il y a tant de nationalités, tant de religions, tant de tendances. La vie est tellement dynamique. En plus, Calcutta a vécu des moments horribles de son histoire et elle a survécu. C'est la ville de la déesse Kali, qui est l'énergie féminine. Il y a eu la mère Thérèse, Teresa. Il y a des prostituées, mais il faut subir, il faut supporter Calcutta, il faut y séjourner un certain temps.
Aujourd'hui, vous pouvez comparer entre les différentes visites que vous avez faites en Inde. On parle beaucoup de l'évolution tumultueuse de ce pays, de ce sous-continent. Comment et dans quel sens l'Inde a-t-elle évolué? Comment voyez-vous l'avenir de ce pays?
En fait de compte, j'ai confiance en Inde. L'Inde a été longtemps fermée, n'est-ce pas? Maintenant, elle fait partie de l'Organisation mondiale du commerce. Ça a beaucoup changé. La globalisation a touché l'Inde, je crois, d'une manière plutôt négative, car la campagne hindoue est toujours très pauvre. Il y a toujours une extrême misère. Donc les différences sont immenses. Il y a des millionnaires, il y a des intellectuels, il y a des universités, il y a tout en Inde. Et pourtant, la campagne est misérabilissime. Et j'étais confrontée à des situations où plus le paysan produit, plus il perd, car il n'arrive pas à fructifier le fruit de son travail. Beaucoup de paysans se suicident parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs dettes, etc. En Inde, il y a tout en Inde, tout y est. De quoi on parle, à quoi on pense. C'est une vitalité extraordinaire. Vous l'avez très bien dit, c'est un sous-continent. 1,3 milliard d'habitants, combien? Notre monde ne peut pas se passer de l'Inde. Il faut avoir conscience de ce pays, de cette culture dont nous héritons tous, parce que c'est une civilisation indo-européenne. Et les hindous sont partout. Ils sont en Europe, ils sont en Amérique. Ce sont des médecins, ce sont des ingénieurs, des spécialistes, des intellectuels, des musiciens, des artistes, des écrivains.
Vous constatez dans votre livre les effets de la mondialisation. Dans certains points, les modes de vie dans les pays bien différents commencent à se ressembler, comme vous dites aussi dans la préface de votre livre. En quoi nous ressemblons déjà et en quoi nous différons encore?
Moi, je crois que finalement, l'exotisme et l'identité, aujourd'hui, on la trouve surtout en Europe. Heureusement, nous différons, nous ressemblons tous les uns aux autres, parce que nous sommes des êtres humains. Enfin, d'après mon expérience, tous les êtres humains sont pareils. Tous les enfants ont la même capacité. Naturellement, s'ils ne souffrent pas de la malnutrition, mais tous les enfants, quand ils commencent à marcher, à parler, à s'intéresser au monde, ils sont comme des éponges qui veulent absorber la vie. En tout ça, nous sommes exactement les mêmes. Malheureusement, la misère, l'argent qui règne aujourd'hui. L'argent a toujours régné, Mais j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus d'importance et que des valeurs telles que la beauté, que la connaissance, le savoir, l'amour et surtout la compassion, qui sont finalement présentes dans toutes les religions, on pourrait dire, ou dans la pensée véritable de l'homme, perdent leur valeur. Mais peut-être c'est parce que je suis déjà vieille et que j'ai eu beaucoup de misère, voilà.
Votre livre se termine à Paris. Ce dernier chapitre est plutôt un conte sur deux amies. Marie est gravement malade et Dana vient à Paris pour s'occuper d'elle. Pourquoi avez-vous placé ce texte à la fin de votre livre? Quelle est la part de la fiction et de l'autobiographie dans ce conte?
C'est tout à fait autobiographique. Il n'y a aucune fiction. J'ai passé une partie de mon enfance à Paris et la personne dont je parle, et à qui je donne le nom de Marie, elle s'appelait autrement, c'était une Bretonne, m'a redonné la France. Elle m'a redonné la civilisation française. Elle a enrichi ma vie d'une manière extraordinaire et il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle, avec une immense reconnaissance. Et grâce à elle aussi, j'ai mieux compris, je pense, j'espère, la pensée cartésienne, la civilisation française, ce qu'il y a de beau, ce que j'apprenais à l'école, elle a élargi avec l'amour et l'attention qu'elle m'a donnée. Voilà.